Vous écoutez
RMC.
RMC.
Les matchs-là l'année dernière, où il y a deux ans, on y allait toujours un peu en demi-molle.
Ce manque d'insuffisance qu'on a eu en supériorité numérique.
Ça va être vite fait, les matchs. On ne confond pas la F1 et le karting. Et je suis gentil. Voilà. Maintenant, next.
Jusqu'à minuit,
c'est l'After Foot. Gilbert Bribois.
Et oui, l'after est là jusqu'à minuit avec Florent Gautreau, avec Stéphane Guy. Tiens, je vous ai pas donné le programme de la semaine, mais demain, évidemment, Monaco à Eindhoven face au PSV après le partout de l'aller. Mercredi et jeudi, after de 4h. Mercredi, Super Coupe d'Europe quand même, qu'on aura dans l'after entre le Real et Francfort. Et puis jeudi, pas de match, mais jeudi, retour de Daniel Riolo de Macron. Sans doute.
Émission spéciale.
Mais sans doute en forme. Il faut être toujours en forme, hein, Daniel. Donc il sera là jeudi. Voilà, tout le monde revient au fur et à mesure, là. Et toute l'équipe sera définitivement au complet mi-août pour une grande saison avec la Coupe du Monde. L'after qui sera à la Coupe du Monde, hein, au Qatar, pour vous faire vivre cette Coupe du Monde. Et tous les débats qu'il faudra faire à côté, liés à l'organisation, notamment, on le fera ensemble dans l'after, bien sûr. Allez, l'OM, on y va, parce que il faut revenir avec 24 heures de retard sur le match d'hier. D'autant qu'on a appris de nouvelles choses, hein, sur la gestion de Tudor entre hier et aujourd'hui. Notamment qu'il avait prévu initialement de mettre Payet sur le banc et Guendouzi. Là, ça aurait été le double effet de double taulier sur le banc.
Cool.
Voilà. Finalement, il n'y en a eu qu'un. On en parle tout de suite. C'est Stéphane qui voulait en parler. Jingle, Stéphane Guy, c'est parti.
Benzema a dit à Deschamps ce qu'il ferait et il a fait ce qu'il a dit. Thierry Henry avait dit à Domenech ce qu'il ferait et il n'a pas fait ce qu'il avait dit qu'il ferait. Vous voyez ?
En fait, on ne sait même pas ce que Thierry Henry avait dit à Domenech.
Ah si, on le sait maintenant. Sorti avec le temps quand même, c'est cette affaire Domenech-Henry.
Moi, je me souviens ce que Domenech avait dit à Henry en disant « je te prends pour être à taulier » alors qu'il l'a laissé sur le banc.
Oui, Thierry Henry.
Donc, en l'occurrence, pour compléter ton jingle, Domenech a dit à Henry ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il avait dit. Il n'a pas fait ce qu'il avait dit. Domenech,
oui. Alors, Domenech, ça, c'est un
autre débat.
Ça peut être un vaste débat. Peut-on l'entamer ce soir?
Bref.
Voilà.
Bon, alors, revenons à Marseille.
Tous les cas, Thierry Henry avait certifié qu'il pouvait être capitaine de route de cette équipe de France et que c'était évidemment pas dans ses capacités du moment.
Oui. Moi, c'est le regret de la. Enfin, pour moi, que j'adorais le joueur. Mais c'est le mec qui, dans le bus, aurait dû se lever.
Oui, bien sûr.
Et il est resté au fond.
Et puis qui aurait dû être le capitaine de route, à défaut d'avoir la capacité sur le terrain. Bref, ça va.
Imagine si Henri avait s'était levé dans le bus et avait mis fin à tout ça. Et si, en plus, il est allé voir l'arbitre d'Irlande, France-Irlande, en lui disant « Écoutez, j'ai fait main ». Imagine s'il avait essayé de faire dans la carrière d'Henri.
Bah moi, je vais te dire, je reproche plus à Thierry Henry le bus que la main.
Oui, non, mais je suis...
Bah, la main, pour moi, ça fait partie du foot. On va pas s'extasier sur la main de Suarez contre le Ghana.
Moi, j'extasie pas. Hein. Moi, je trouve que c'est scandaleux, la main de Suarez contre le Ghana.
Ah bah non, en Amérique du Sud, on trouve que c'est la deuxième main de Dieu.
On n'a pas les mêmes valeurs. Il n'y a pas de main de Dieu.
Conception du football.
Dieu a deux mains, alors. Une de Maradona, une de Suarez.
C'est possible.
Pas mal.
Suarez. Bref. Moi, j'aime bien ce genre de débat, là. Non, mais c'est vrai. Tu es sur la ligne Larquet. Jean-Michel Larquet, quand tu lui parles de la main de Dieu de Maradona, ça le rend fou. Ouais, il te dit, mais ce truc est un scandale.
Ouais, moi, je trouve ça aussi scandaleux, tout à fait. Je suis un laudateur de l'autre but de Maradona sur ce match-là, mais certainement pas de la main de Dieu. Non.
Donc le côté footballeur filou, toi, t'es pas...
côté tricherie, injustice, ça me plaît pas, non, clairement.
Bon, au final, ça aurait fait un zéro.
Peut-être ou pas, ou peut-être pas, je sais pas.
Tu sais, il y a un doc anglais sur le fameux but.
J'étais jeune, on vivait ces Coupes du Monde-là intensément à l'époque, et j'ai adoré l'Argentine de 86, évidemment, mais c'est pas une équipe qui est magnifiée par le geste de Maradona.
Qui n'était pas une équipe incroyable les postes, mais
qui était une équipe ultra défensive déjà.
Non, mais surtout avec des joueurs qu'on a vus après en Ligue 1, avec le gardien Goycochea, avec Bruchaga qu'on connaissait.
José Luis Brown,
qui a joué à Brest. Et il y a un doc. Je pense à BBC, mais à ça à vérifier. Formidable sur le fameux deuxième, le but le plus beau de but de Maradona avec les dribbles, qui est fait sur toute cette traversée, finalement, qui n'est fait que sur la traversée. refaite des centaines de fois dans le doc et avec les commentaires minute par minute de chacun des Anglais, mais tu vois, vraiment en longueur, ce qui fait que j'ai une bêtise, mais t'as peut-être 52 minutes sur l'action, quoi. Mmh. Et ça passe comme une étape. C'est peut-être pas 52 minutes quand même, c'est peut-être plus 26. Enfin voilà.
Enfin, le truc le plus fou sur ce but, de mon point de vue, c'est que Maradona engueule Valdano en lui disant, mais depuis le début, je te cherche. Et t'étais où?
Avec ça, je le conseille,
Et c'est Valdano qui raconte. Et lui, il m'engueule. Et moi, je lui dis, mais attends, tu vas te marquer un but incroyable. Il dit, bah, mais je voulais te la donner, t'étais où?
Génial. Bref. Génial. Avec ce maillot bleu, là.
Et le dernier anglais, rappelez-vous son nom?
Butcher.
Terry Butcher.
Butcher.
Et avec son nom, normalement, on aurait dû s'occuper de Maradona.
Et bah, enfin, même s'il avait essayé de s'occuper, il sautait au Maradona, il sautait à la corde.
Enfin, après, l'autre histoire sur la main, c'est surtout la détente de Shilton. Qui quand même décolle d'à peu près 1 cm pour prendre le ballon de Maradona qui fait 1m60.
Une autre époque de gardien aussi. Par rapport à ce qu'on voit maintenant, parce qu'on a beau dire que voilà, les gardiens étaient. Il y a des détentes quand même assez exceptionnelles aujourd'hui par rapport à il y a quelques années.
Bref. Donc revenons à l'OM après cette digression comme on les aime dans l'after.
Bon, la pub.
non, on a le temps là. Tu voulais parler de Longoria?
Encore une fois, c'est pas le. On peut pas analyser le foot uniquement à travers les résultats et les résultats d'hier. Il faut le tenir à distance, même si il est quand même, il est louable ce résultat pour l'OM d'abord parce que c'est un match de qualité qui a été maîtrisé globalement par les Marseillais qui ont affiché des et qui en plus ont visiblement été dans les principes de jeu quand même d'Igor Tudor. On les a vus sur ce match-là. Moi qui avais commenté la semaine précédente pour RMC Story le match amical contre Milan. Évidemment, Reims, c'est pas Milan, hein, et on se rend bien compte que Marseille est encore dans la cour du Milan AC, mais ça, on le savait. Et d'ailleurs, c'est un match qui a fait quand même beaucoup jaser et qui a provoqué beaucoup de remous à Marseille. C'est un match qui avait été prévu par Sampaoli, le match contre Milan. Et il est à peu près sûr que si Tudor avait eu à établir la liste des matchs amicaux de l'OM, il n'aurait pas affronté le Milan AC 8 jours de la reprise du championnat parce qu'il savait très bien que son équipe n'aurait pas encore incurgité ses principes de jeu. Bref, ça c'est une incidence. Non, moi ce qui m'a beaucoup frappé la semaine dernière, mais comme ça me frappe depuis qu'il est nommé, parce que on oublie quand même que cet homme-là, Pablo Longoria, a 36 ans, qu'il était recruteur. Voilà, la formation, la base de Pablo Longoria, c'est d'être recruteur. Donc c'est incontestablement un homme de football, un homme qui a un regard, qui a un savoir, qui a un réseau, etc. Mais on pouvait pas quand même, lorsqu'il a été nommé à la surprise générale par McCourt, on pouvait pas imaginer qu'il endosse aussi bien le costume de président, qu'il ait cette force-là, qu'il ait ce caractère, cette capacité à manager un club aussi bouillant que l'OM. Et je l'ai trouvé exceptionnel la semaine dernière. Exceptionnel de calme, de froideur. J'ai l'impression que cet homme-là a une feuille de route, a un objectif qu'il s'y fixe, qu'il ne déroge pas malgré, encore une fois, le tourbillon marseillais permanent, qui ne se laisse pas aspirer par ça, qui garde sa ligne. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinairement notable. Et j'étais curieux de voir ce que ça allait donner sur le terrain, parce qu'il jouait gros quand même hier contre Reims de ce point de vue-là. Et ses interventions publiques, c'est-à-dire qu'il n'est pas intervenu à chaud, il a pris quelques jours, je crois qu'il a dû prendre la parole le jeudi ou le vendredi seulement en conférence de presse.
Le jeudi avec l'arrivée de Veretout.
Il avait vu les joueurs le mardi, ça a été très court d'ailleurs, hein, lorsqu'il a vu les joueurs. Moi je suis impressionné par la capacité qu'il a eu à endosser ce costume de président de l'Université. C'est rare de voir il y a un autre précédent en France, pratiquement un contemporain de Pablo Longoria, c'est Olivier Letang. Qui est un peu passé comme ça du rôle de chef de recrutement à c'est un patron quand même de club, même s'il est controversé, c'est vrai, mais il a montré à Rennes quand même avec des résultats et à Lille depuis qu'il y est aussi, avec aussi effectivement, mais tout homme est controversé, il y a toujours des débats, et Longoria le sera tôt ou tard, même si les Marseillais quand même dans leur folie, hein, c'est une ville assez incroyable, ont quand même cette perception foot qui leur fait quand même distinguer, me semble-t-il, les hommes de qualité. Et il est très ménagé, Longoria.
Il
est même adoré par les supporters. Ouais. Mais lui n'a jamais été visé. Non, mais lui n'a jamais été visé. Et il a pu s'appuyer là-dessus. Et il a pu s'appuyer là-dessus en renforçant Tudor, ce qui est pareil. C'est-à-dire que on a compris que dans le fonctionnement de Longoria, ça a été vrai avec Sampaoli l'année dernière. Parce qu'on oublie, par exemple, que Sampaoli avait écarté Steve Mandanda. Hein. Écarté Steve Mandanda l'an passé, ou écarté Payet dans ce début de saison, c'est la même problématique, finalement. Donc, Longoria fait duo avec son entraîneur. Les joueurs sentent qu'il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre les deux. Ils ne peuvent pas s'engouffrer dans cette brèche-là. Et ça consolide forcément l'Olympique de Marseille. Il l'a fait avec Sampaoli. Même si on a compris que pourtant leurs voix ont finalement divergé, il le refait encore cette fois avec Tudor en disant à Tudor, parce que ça je le sais de l'intérieur, en disant à Tudor suis ton chemin, c'est-à-dire va au bout de tes idées. On t'a pris pour ça, pour être dur, pour les faire courir. On t'a pris pour faire des choix. Si tu dois mettre Payet sur le banc, tu mets Payet sur le banc. Il l'a conforté là-dedans. Et on verra évidemment. On n'est qu'au premier match, mais en tous les cas, il y a un fil conducteur très précis et il y a un vrai pilote dans le navire marseillais.
Flo.
Après,
je développerai ma théorie sur l'été de Sampaoli.
On en revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure.
Juste que tu cites Sampaoli, ça que je voulais ajouter également. Il aurait pu aussi, Longoria, faire le choix, quand Sampaoli est parti, je pense que lui l'avait plus ou moins anticipé quand même, ce départ-là. Il aurait pu inscrire son choix dans la continuité de Sampaoli, chercher un entraîneur capable de prolonger l'ère Sampaoli. Il a fait un choix de rupture très fort avec un entraîneur qui, si on veut résumer, si j'ai bien compris la problématique telle qu'elle m'a été un peu expliquée quand je suis allé à Marseille, on avait un Sampaoli qui, dans son management, disait aux joueurs, leur donnait beaucoup de liberté en leur donnant rendez-vous le dimanche et en leur disant soyez au rendez-vous dimanche, sinon ça va mal se passer. Ils l'ont été à peu près toute la saison. Et on a un Igor Tudor qui, lui, est beaucoup plus exigeant dans le quotidien.
Moi, je vais
dans
plus loin que toi, du quotidien. Coup.
Pardon.
Moi, je pense que le départ de Sampaoli, en fait, a été un soulagement pour Longoria.
Oui, je te suis là-dessus.
Et qu'en fait.
Paradoxalement, hein, parce qu'ils ont quand même fait une très très bonne saison là encore.
Et que du coup, là, il a saisi l'occasion de se dire attends, moi, là, il y a des trucs qui ne me plaisent pas, notamment la place très importante que prennent certains joueurs, Payet, Guendouzi, étant les porte-étendards de tout ça. Et comme par hasard, Tudor dit moi, le mercato, je ne m'emmènerai pas, Sampaoli. Tu parles, lui il voulait évidemment s'en mêler, c'est pour ça qu'il s'est barré. Comme par hasard, premier match, Payet sur le banc et Guendouzi aurait dû y être aussi. Tu vois là, sens qu'il y avait
Mais très 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 juste.
Il y a une logique en fait.
Et autre chose à ajouter sur Longoria qui n'est pas sans importance dans le monde du foot où tout n'est qu'une histoire d'argent. C'est quand même de fonctionner pour l'instant. Alors là, ils ont quand même, parce que j'ai calculé un petit peu, ils ont quand même dépensé en levant les options des prêts, hein, parce qu'il faut les payer, hein, les Paulo Lopez, les... Comment il s'appelle le Turc
Under.
Merci. Et puis quelques autres, ils ont 50 ou 60 millions d'euros déjà dépensés quand même, sans parler des recrues onéreuses. Mais il fonctionne quand même à un minimum au niveau budgétaire. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait des idées et de bonnes idées, quoi.
Et d'ailleurs, je signale qu'Alexis Sanchez a officiellement résilié son contrat avec l'Inter.
Et qui signera à Marseille, ça je peux vous le garantir.
Voilà, exactement. Dans les
C'est pas un scoop.
Flo, d'accord avec Stéphane ?
Oui, bien sûr, moi je suis d'accord. On en a parlé la semaine dernière. On avait ces infos-là que Longoria voulait enfoncer le clou, c'est-à-dire ne pas céder à ce qui semblait être une sorte de fronde des joueurs. Donc évidemment, il fallait que ça se termine si possible par une victoire pour envelopper tout ça. Et je pense qu'ils ont quand même eu très chaud du côté de la direction et de la direction sportive. Après, je suis un petit peu moins sûr sur l'histoire globale, là, puisque tout ce que vous avez dit est vrai. Hein, il est sans doute soulagé, effectivement, paradoxalement, de plus avoir une grenade dégoupillée dans les mains qui est un Sampaoli comme l'a pu être un Bielsa avant, parce que malgré tout, tu sais pas tous les jours en te réveillant s'il va pas t'appeler pour dire bon, ben, je m'en vais parce que finalement, j'y crois pas, j'aurais pas l'air que je veux, etc. En revanche, sur le choix et quand même sur le choix tactique qui est fait en prenant Tudor, là, il y a quand même une absence de continuité qui interpelle. Et là, il faut faire entrer un autre personnage dans l'histoire, c'est Javier Ribalta, qui a quand même été intronisé directeur sportif, pour que justement le fameux couple président-entraîneur qui ne pouvait pas vraiment tenir sur la durée, on l'avait dit l'an dernier, s'écarte et laisse la place à quelqu'un, en l'occurrence le directeur sportif, et qui a été très influent sur le choix de Tudor.
Le directeur du football, le directeur sportif, c'est David Friot. Oui,
pardon, oui, David Friot qui fait le recrutement.
Les trois têtes de l'OM, donc Longoria, Ribalta, Friot, ils sont dans une ADN foot, ce qu'on réclame ouais. souvent dans cette émission, de dire des hommes de ballon, de jeu, qui pensent dont les préoccupations premières sont là, quoi.
Hein.
Ils sont pas là pour, en gros, pour faire des transferts, ils s'en foutent plein les fouilles. Si j'ai bien compris leur fonctionnement à eux. Hein.
Mais néanmoins, sur le choix, je mettrais quand même un bémol sur toute cette histoire, parce que moi, je crois beaucoup à tout ce qu'on dit et toutes les qualités de Pablo Longoria. Je pense quand même, contrairement à ce que vous avez dit, que Longoria, pour la première fois depuis justement plusieurs mois, là, sur les deux dernières semaines, avant ce match contre Reims, on a entendu pour la première fois des supporters qui disaient « je crois qu'il est en train de se perdre », je crois, y compris après la conf sur Vertu, où il avait été très fort aussi, effectivement, dans ce qu'il avait dit, mais ça n'avait pas convaincu forcément tous les supporters sur ce sujet-là. Donc, que ce soit sur Tudor ou sur Vertu, pour la première fois, on entendait des choses contre Longoria, c'est la première fois, enfin une des premières fois à Marseille. Et donc ce choix, il est celui de Ribalta, mais assumé par Longoria. Donc je dirais que ça lui a permis effectivement au management de reprendre la main et de s'asseoir encore plus comme président. En revanche, il y a quand même quelque chose qui interpelle sur le choix tactique. Parce que passer de ce que tu veux faire avec Sampaoli et en le défendant, en disant voilà ce qu'on veut faire, voilà le type de jeu qu'on met en place, à disant maintenant, non, en fait, voilà ce qu'on veut faire, voilà ce qui n'a rien à voir, tu dis. Il y a un problème de continuité. Et je vous dis, entre les deux, il y a ce Ribalta qui, lui, dans l'urgence, parce qu'ils avaient prévu sans doute l'accident, mais ils ont voulu décider très vite, y compris pour préparer l'intersaison très, très rapidement. Mmh. Et donc.
C'est louable, hein, parce que heureusement.
Bien sûr.
Il y a quand même eu, malgré ça, entre l'arrivée de Tudor, c'est-à-dire le 3 juillet, et le match d'hier, c'est-à-dire le 7 août. Voilà, il y a eu 31 jours pour préparer.
Mais c'est vrai qu'ils sont allés assez vite.
La saison.
Et dans ces moments, dans ces quelques heures où ils ont décidé de choisir lequel, on se souvient qu'il y avait de Zerbi qui était dans les petits papiers. C'est plutôt la ligne Ribalta qui a été assumée par Longoria parce qu'effectivement, il s'est dit oui, là, de toute façon, maintenant, on reprend la main sur tout, le vestiaire y compris. Donc je pense, et pour conclure, et là, on va être d'accord, ça rejoint ce qu'on s'est dit au début de l'émission, ce que tu disais sur la fameuse République des joueurs. Je pense quand même, quand je vois Ten Hag à Manchester, on l'avait dit la semaine dernière, même avec un Cristiano sans doute encore peu entraîné, donc c'est peut-être un peu plus simple, mais néanmoins qu'il laisse Cristiano sur le banc, ou hier, Tudor qui, au passage, a quand même, on va dire... du caractère, hein, parce qu'on l'entend pas frémir.
Je ne pense pas une seconde qu'il a pas Longoria derrière lui.
Mais peut-être, mais
pour lui dire oui, vas-y, fais-le.
Mais bien sûr, mais c'est ce qu'a dit Steven, mais ça je le grossis.
Ah, c'est sûr.
Mais néanmoins, je te dis juste que à un moment ou à un autre, j'ai bien aimé aussi sa réaction d'après-match quand il a parlé des sifflets, on lui a parlé des sifflets et autres. Il a dit mais les supporters ont toujours raison et c'est logique. Puis il y a des doutes. Puis le gars, il est dans sa ligne, il bouge pas et je trouve que c'est la meilleure des positions. Mais voilà, pour finir sur la République des joueurs.
Moi, je suis pas le championnat turc, hein, mais quand il était entraîneur de Galatasaray. Ça n'a pas été un grand succès, puisqu'il a été viré en cours de saison. Mais bon, en Turquie, c'est quand même un peu le jeu national. Mais il avait procédé exactement de la même façon avec Wesley Schneider, qui était le très proche du président turc de l'époque. Et pareil, le premier match, il avait sorti Schneider du monde de départ. Donc, il aime marquer son territoire.
Il y a des façons de marquer son territoire, effectivement. Et il ne faut pas oublier que dans un vestiaire, tout ce qu'on raconte sur, qui est vrai, hein, Payet un leader, Payet quelqu'un d'écouté, tout est vrai, on ne va pas déconstruire l'histoire. Mais il y a aussi dans un vestiaire des gens qui ne disent rien, ou qui sont moins fans, ou qui ne jouent moins, voilà, et qui eux se disent, le coach, il a mis Payet sur le banc. Enfin, tu vois, il est capable de faire ça quand tu joues pas. Parce que n'oublions pas que dans un effectif, t'as ceux qui jouent, t'as ceux qui jouent pas. Et faut pas croire que tout le monde est là à genoux en disant Payet est notre dieu et on le suivra partout, y compris quand il demande un entretien avec le président à propos de l'entraîneur. Il y a d'autres joueurs qui disent.
En tout cas, qui n'a jamais été demandé. On rappelle quand même.
Ouais, mais en tout cas, il y a d'autres joueurs qui se disent, il va nous laisser. La preuve, hein, d'ailleurs, ça fait tourner l'effectif. Donc, pour Longoria, c'est une chose. Après, j'aurai encore quelques doutes sur le cheminement tactique. Où va cet OM, quoi?
Non, puis c'est pareil, c'est pas une victoire. Enfin, je veux dire, ils ont joué une équipe de Reims qui était quand même très, 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 très fiable. Et l'OM montre déjà des limites sur certains postes assez évidentes, quoi.
Choukri est là, supporter de l'OM. Bonsoir.
Bonsoir, les gars. Bonsoir, la
Choukri. Ça va, Choukri?
Comment ça va, la famille? Vous allez bien?
Nous, ça va, l'OM aussi.
C'est iranien, Choukri, non, comme prénom?
Moi j'ai été surpris, j'ai appris plein de choses. Là, vous avez donné des infos croustillantes, là. J'ai l'impression que vous êtes au cœur du club. que vous nous avez donné, moi j'ai appris plein de choses.
Bah, modestement, c'est le cas.
Non, non, c'est génial. C'est ça qui est bien avec l'after, c'est que voilà, c'est vraiment une émission de foot et on apprend parfois on a des informations qu'on n'a pas ailleurs.
T'as fait partie de ceux qui voulaient pas de Tudor et qui préféraient Sampaoli?
Ben ouais, la dernière fois que j'avais appelé, vous le savez, j'ai créé mon coup de gueule parce que pour moi c'était pas possible. Je connaissais pas l'entraîneur. On avait fini deuxième. Bon, Sampaoli, on aime ou on n'aime pas. Moi, je m'attendais pas qu'il parte. Et puis là, c'est vrai qu'avec ce nouvel entraîneur, j'étais pas enthousiaste du tout. Et je me suis dit, avec les matchs de préparation qu'il y a eu, je me suis dit, c'est catastrophique. Je me suis dit, on va où là? Je me suis revu partir dans une saison casse-pipe. Et là, hier, grosse surprise, comme vous l'avez pu le constater, il a été sifflé par la majorité du stade à l'entrée des joueurs. Et là, gros match, sans paillettes. Donc, moi, je vous dis la vérité, hier, j'étais au stade, je n'étais pas choqué, mais je me suis dit, pas mal quand même, tu dois le voir.
Tu t'es autoflagellé en rentrant chez toi hier soir, bon, quand même pas.
Non, mais bon, tu te dis bon, c'est vrai que c'est un entraîneur, moi, que je connais pas, donc je l'ai vite jugé, je voulais pas entendre en parler, mais là, c'est vrai qu'avec ce qui s'est passé hier.
Une victoire contre Reims, c'est tu dors sur tes deux oreilles, quoi.
Exactement, je me suis dit peut-être que c'est pas un aussi mauvais entraîneur que ça, malgré le parcours qu'il a eu, malgré les résultats qu'il a eu, parce qu'il a fini quand même 9e du championnat italien. N'importe quel entraîneur français, je pense qu'il aurait pu finir 9e aussi. Donc je me suis dit bon.
Même Gourvenec?
Gourvenec. J'avais compris. Même Gourvenec, il aurait pu. J'avais pas entendu. Donc hier, ouais, grosse stupéfaction. Donc là aujourd'hui, je m'interroge parce que si on joue comme ça toute la saison, moi ça me plaît, hein, moi ça me va, hein, moi je suis content. Hein, si on joue comme ça toute la saison, à mouiller le maillot, avoir la grinta comme ça pendant tout le match. Ça me va, ça me plaît. Surtout qu'il y a Bamba Dieng qui n'a pas joué, qu'il y a Dimitri Payet qui était remplaçant. Et pour revenir sur Dimitri Payet, moi je vous le dis, écoutez bien ce que je vous dis.
Vas-y, Si
Dimitri Payet.
Voilà, c'est mieux.
Si Dimitri Payet ne joue pas cette saison, je peux vous le garantir qu'il va y avoir un brouillé.
Il va jouer dès le week-end prochain, tu vas voir. Il est malin, Tudor. Il va le sortir la première journée. Là où tout le monde attend.
Bon, ce qui est bien avec Choukri, c'est qu'on sent qu'il est dans le club. Parce que là, il sent les trucs. Choukri, je te félicite.
Oui, à son âge, t'as pas envie d'être sur le banc. À son âge, il a envie de jouer.
Il va jouer.
Il va jouer,
mais Tudor lui dit juste, tu vas jouer quand l'entraîneur le décide. Une vieille base du foot, quoi. Donc, et là, samedi prochain, il va jouer, Payet. Il jouera moins.
Choukri, un truc à rajouter?
Ouais, j'ai un truc à rajouter. Moi, je voulais vraiment tirer mon chapeau quand même. Il faut vraiment le souligner. Et il faut vraiment prendre conscience la chance qu'on a dans le club d'avoir un grand président comme Pablo Longoria. Parce que ce qu'il arrive à faire, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ce qu'il arrive à faire avec peu de moyens, avec franchement ce qu'il réalise depuis qu'il est arrivé au club, c'est tout simplement exceptionnel. Et je voulais tirer mon chapeau. Parce que franchement, ce qu'il arrive à faire, c'est un génie. C'est un génie. Pour moi, c'est un génie. C'est un grand président. Et j'imagine même pas si on avait de l'oseille, j'imagine même pas ce qu'il serait capable de faire. Parce que avec très peu, il arrive à faire quelque chose de très grand. C'est quand même exceptionnel.
C'est des fois, on est moins bon quand on a beaucoup d'argent que quand on n'en a pas beaucoup. Hein.
Non. Donnez-nous de l'argent, vous allez voir. Même moi, tu veux un président, tu vas voir qui je te ramène. Moi.
Ouais. Gardons Longoria pour l'instant. Hein.
Ah, heureusement qu'il est là. Je sais pas si les supporters marseillais réalisent la chance qu'on a, mais heureusement qu'il est là. C'est exceptionnel ce qu'il fait. Vous vous rendez compte ce qu'il fait? Il a réussi à faire venir Veretout, Mbemba, il fait venir le Gigot. Moi, le Gigot, je connaissais pas du tout.
C'est exceptionnel. On parle pas non plus là de joueurs chapeau 1, hein.
C'est pour le match du dimanche midi, le Gigot du dimanche. On l'attend.
C'est exceptionnel ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Moi, franchement, je tire mon chapeau parce que franchement, c'est exceptionnel ce qu'il fait.
Merci Choukri, bonne soirée.
Merci à vous les gars, passez une bonne soirée, à bientôt et portez-vous bien.
Ça marche, toi aussi, Choukri. Tu disais, oui, il y a quand même des postes à problème. Tu parlais desquels ?
Non, ben là, hier, il y a un joueur qui inquiète, c'est Malherdi quand même. Hein. Alors, il y a le jeune Isaac Touré qui va venir, mais on se dit qu'à ce poste-là, ça peut être compliqué pour l'OM.
Moi, je pense quand même que la défense centrale, bon, elle est moins forte que l'année dernière. Saliba, c'était quand même au-dessus d'aucun de tous ceux qui sont là maintenant.
Bien sûr.
Voilà.
Putain, puis il va y avoir des. Là, on va rentrer dans le dur après, ce qu'on disait. À la fois tactiquement, comment on joue, et à la fois, effectivement, sur le choix des joueurs. Comment tu fais devant ? Parce que Milik est sorti, bon, applaudi, mais il n'a pas.
Il y a Sanchez qui va arriver en plus.
Il y a Sanchez qui va arriver dans la rotation. Donc, bon, évidemment, il y a la Ligue des Champions. Donc, peut-être que tout ça va permettre.
Ils ont un défi. Marseille, ils ont deux semaines ou trois semaines pour vendre. Et comme tous les clubs veulent vendre, on va voir comment ça va se passer.
Ouais, je reste. J'attends de voir, notamment sur l'animation offensive et sur. Après, c'est ça, cette façon de presser, c'est aussi pour ça qu'effectivement, peut-être Payet va parfois moins entrer dans les considérations de Tudor, parce qu'il va demander à tous de faire ses efforts. Donc, il les faisait l'an dernier.
J'ai bien compris ce qu'on me dit à Marseille, c'est que le souci avec Bamba Dieng, bon, il n'est pas seulement financier, économique, on imagine que c'est parce qu'il a une valeur marchande.
Quand tu as parlé de son poids, je suis sûr, de la balance.
C'est qu'on m'a parlé de ses stats de course qui ne seraient pas bonnes du tout. Voilà.
Ah.
Moi, je ne suis pas assez suivi Bamba Dieng pour.
Je vais juste te dire sur Bamba Dieng, pour avoir un peu bossé sur le sujet la semaine dernière, voilà. C'est que. Il y a une telle guerre en ce moment sur ce sujet-là entre l'entourage de Bamba Dieng et l'OM que la communication de l'OM sur Bamba Dieng, y compris sur son poids et effectivement les stats qui sortent comme ça de manière un petit peu étonnante
sous le manteau,
laisse penser que là-dessus faut qu'on soit prudent parce que l'entourage a évidemment ses intérêts. L'info c'est que Longoria, la direction de l'OM aurait souhaité le faire prolonger. Et que c'est ça qui coince. Mais derrière, sur la communication sur son surpoids, ses stats, moi je trouve que c'est dur aussi. Je vais le prendre dans les deux sens. Je comprends que Longoria ait été une demande et qu'il veuille pas céder devant l'entourage d'un joueur. Ça fait partie des choses. Il a été traumatisé par l'épisode Camara. Je comprends aussi que dans l'entourage d'un joueur, on n'ait pas envie, quand c'est pas vraiment le cas, de dire qu'un joueur a tant de kilos de trop alors que c'est pas le cas. Et le gars se retrouve en tribune. Et des supporters, effectivement, l'aiment bien et auraient aimé le voir jouer. Je pense qu'on est sur un truc un peu tendu là.
On a Boris qui est là pour conclure sur Marseille. Salut Boris.
Bonsoir messieurs.
Salut Boris. Bon, bonsoir. T'es d'accord avec Florent là sur ce qu'il a développé sur Longoria ?
Ouais, franchement, Stéphane. Vous avez été assez complet. J'ai beaucoup apprécié. Ça fait plaisir parce que ce qu'a dit Rotten cet après-midi, je trouvais que c'était.
Oui, il a mis un petit tacle à Igor Tudor par rapport.
Ah ouais, mais c'était ridicule. On aurait dû un joueur de l'OM qui s'exprimait. Franchement, les décisions qu'il prend, alors moi je suis pas un pro Tudor, hein. Moi j'aime beaucoup Longoria, j'ai confiance en lui, donc j'ai confiance en ses choix. Tudor, je le connais pas, donc je fais confiance en Longoria. Moi hier j'étais au stade et honnêtement je me suis régalé. Je m'étais régalé avec Bielsa, je m'étais régalé avec Guéret, je me suis régalé en début de saison avec Sampaoli, mais l'an dernier, même si on avait le ballon, on s'ennuyait, on n'avait pas d'occasion, pas de tir. Hier ça partait dans tous les sens, des débordements, des centres, des tirs, des poteaux.
Tu veux dire là, un peu de jeu direct et efficace, ça t'a plu, quoi?
Ah ouais, franchement, ça m'a plu. Le stade a vibré, quoi. Tout le monde s'est régalé. Il faisait beau. Franchement, c'était le top. Mmh. Moi, je suis content d'avoir pris Tudor parce que si on avait pris un coach, si on avait regardé Sampaoli, vous en avez parlé, c'était très intéressant. Les Guendouzi et surtout Payet, c'est des petites starlettes, ça. Moi, Payet, 35 ans, il n'a jamais fait une saison complète. Même l'an dernier, il a fait les 4 bons premiers mois. Et après.
Alors attends, Payet, faut pas oublier ce qu'il fait la saison dernière. Payet, quand il se blesse contre Feyenoord, c'est le drame absolu à Marseille. Parce qu'on se dit, sans Payet, on va jamais arriver sur le podium. C'était le meilleur joueur de l'OM au moment de sa blessure.
Ah oui, mais après, Payet, quand il est au top, c'est magnifique. Mais il est au top combien de temps dans une saison ? Même à l'OM, quelle saison il a fait à fond ? Alors, il a fait Bielsa, c'était sympa. La deuxième année, il lui a cassé du sucre. Villas-Boas, il a fait pareil. Ça aurait été pareil avec Sampaoli. Donc, allez, un petit séjour sur le banc, tu montres qui c'est le patron. Le club est plus fort que tous les joueurs. Guendouzi, il a eu la tremblote, ça lui a fait du bien. De retrouver Rongier au milieu du terrain, vous avez vu Rongier le match qu'il fait ? Il est capitaine, Payet y rentre, il garde le brassard. Franchement, il fait des choix forts. Alors, je ne sais pas si ça sera gagnant et payant tout le long. Mais honnêtement, au moins, tu montres que le club est plus fort que tous ses joueurs. Et même Mandanda, hein, parce qu'il y en a qui disent Mandanda, c'est une honte et tout. Bah, Mandanda, c'est bon, on avait fait le tour de Mandanda à l'OM. Moi, je suis content. Je suis content du virus que prend le club. Je suis content de ce qu'on a vu hier. Alors après, attention, en face, c'était faible. Je suis pas sûr que l'anglais Tavares à gauche, ça soit super bon défensivement. Il y a beaucoup de zones d'ombre qu'il faudra éclaircir. Mais je suis content. Puis on va peut-être espérer enfin avoir un club sérieux où ça bosse, où les mecs ils râlent pas parce qu'on court trop à l'entraînement. Où on va, nous, en pré-saison, les joueurs ils se plaignent d'avoir trop couru et d'être fatigués. C'est un truc de fou quand même. Et pour en revenir au sifflet sur Tudor en début de match, mais c'est une honte absolue. Mais ça, c'est le problème des réseaux sociaux. Tout le monde se demande la tête, les abrutis parlent, tout le monde écoute. Enfin, franchement, ça me fait halluciner. C'est du niveau des sifflets sur Deschamps quand on joue le Bayern en quart de finale Ligue des Champions.
Ouais.
C'est encore pire. Mais c'est d'un ridicule. Il n'y a que chez nous qu'on voit ça. Moi, je suis loin depuis très très longtemps. Je vais au stade régulièrement. J'étais mon abonné. Mais à des moments, il faut dire aux gens, stop, arrêtez, quoi.
Bon, après, tu sais que t'as toujours le côté moutonnier du stade où il suffit qu'il y ait 15 types qui sifflent pour que tout à coup il y en ait 50. Hein.
Ah ouais, c'est exactement ça. Mais chez nous, c'est particulier quand même. Hein. Chez nous, c'est un particulier parce qu'à la fin du match, tout le monde dit sinon c'est un génie.
Voilà.
Siffler un coach avant même que la saison commence.
C'est la magie du foot.
C'est ridicule.
Ah, c'est énorme. Alors, c'est rigolo. Moi, honnêtement, j'ai rigolo. Mais j'ai trouvé ça fou. Moi, il y a des choix. Voilà. Dienne et tout, je veux bien le voir jouer. J'aimerais bien qu'il soit performant, mais il faut bien se rendre compte que chez nous ça marche pas. Mais après, le coach, il fait des entraînements quand même, il voit ce qui se passe. Pourquoi nous, alors, c'est notre rôle, vous les journalistes, vous alimentez, nous on joue là-dessus, mais c'est comme ça. Et si Tudor, le premier match, c'est parce qu'on a perdu contre la Sénilan au Vélodrome, déjà ces matchs amicaux, c'est n'importe quoi. 60 000 personnes à la veille de une semaine avant la reprise des championnats, tu joues un match amical comme si tu jouais une finale de l'UEFA.
Business is business.
Ah, puis je rappelle, ouais, Boris, voilà, un élément, moi j'avais couvert et j'avais commenté il y a 7 ans, et le même match, Marseille-Juve, ça avait été une soirée formidable. Marseille avait tapé la Juve 2-0, exactement les mêmes conditions. Hein. Et une semaine après, Marseille perdait à domicile première journée contre Caen 1-0, et Bielsa dans la foulée annonçait sa démission. Donc il faut faire très très attention à ces matchs de préparation, ouais, qui évidemment ont une signification très
non seulement une signification, mais c'est quand même intéressant de voir que, comme tu l'as dit tout à l'heure, le programme a été fait avant, et les contrats étaient signés, donc tu pouvais pas les changer, mais faut bien entendre le mot contrat, c'est-à-dire que quand les matchs amicaux se font au détriment de, on l'a encore vu avec la tournée au Japon qui a été écourtée parce que Luis Campos a jugé que à juste titre sans doute. Oui, mais peu importe, en tout cas ça veut dire
ça,
que
com, hein.
à un moment donné le business peut embarrasser quand même là aussi la partie sportive. Je suis pas sûr que Tudor aurait dit bah non super un match contre le Milan. Alors est-ce qu'il aurait eu gain de cause? Pas sûr non plus, hein, contre la direction, mais pareil, hein, on dit que ce soit Tudor ou Sampaoli, la direction avait bien signé ces contrats-là et avait bien signé le fait d'avoir un gros match contre le Milan AC le 31 juillet. Hein. Donc,
merci Boris.
C'est vrai.
Voilà pour l'OM. Donc on attend maintenant Alexis Sanchez. Veretout est arrivé 48 heures plus tard, il a joué. Donc si Alexis Sanchez arrive dans la semaine, il n'y a aucune raison qu'il ne joue pas ce week-end. Hein. Ah, je ne sais pas s'il a fait une préparation très intense, mais ouais. Dimanche soir à Brest, exactement.
Moi, je suis très sceptique. Hein. J'ose le dire sur l'euphorie générale sur l'arrivée d'Alexis Sanchez. Je pense que c'est un individu.
Tu penses qu'il est
cramé ? Non, je crois pas à ça, mais je pense que c'est un individu dans un vestiaire très, très, très compliqué.
Alors, pour d'autres raisons, on va peut-être mettre une petite pièce sur Alexis Sanchez buteur, ce qui était dit pareil sur Ramsey à Nice.
Je connais pas la personnalité de Ramsey, ouais, sur le, mais je pense que celle de Alexis Sanchez peut poser des problèmes.
Ah, à tout de suite dans l'after pour parler
de Monaco. Bien avec Payet et
des autres clubs de Ligue 1 qui ont gagné ce week-end. Qui vous a plu ce week-end? Lens, Montpellier, Monaco et les autres. On va passer en revue un petit peu tout ce qui s'est passé. Bien sûr, la Ligue 1 jusqu'à minuit, le 32-16 est ouvert.
RMC,
l'After
Foot, Gilbert Bribois.
23h35, Stéphane Guy est là, Florent Gautreau est là. Demain, Monaco joue sa qualif, hein, pour le tour suivant, qui pourrait être peut-être plus simple. Rappelons qu'ils vont jouer contre le vainqueur du duel entre les Glasgow Rangers et l'Union Saint-Gilloise, le club belge. Ils ont gagné 1-0 à l'aller, les Belges.
2-0.
À l'aller.
Je crois.
Voilà, Glasgow Rangers qui était quand même en finale de... d'Europa League il y a quelques semaines. Bref, un partout face au PSV. Ce qu'on sait, c'est que Ben Yedder devrait être titulaire demain. Il était pas, il avait pas mal fait tourner contre Strasbourg, mine de rien. Hein, Clément, vous l'avez vu. Et on va l'écouter, Philippe Clément. Puis après, comme ça, pour tout le monde pourra donner son avis sur la dynamique monégasque du moment.
Favori, ça c'est un mot intéressant pour les journaux. Pour moi, mentalement, nous sommes le favori parce que je suis certain que physiquement, nous sommes meilleurs. Mais on doit prouver sur le terrain. Et ils ont l'avantage de jouer chez eux avec leurs supporters. Nous voulons montrer que nous étions la meilleure équipe dans les deux matchs. Nous étions pendant le premier match. On essaye d'être dans le deuxième match aussi la meilleure équipe.
Il est bon, lui. Il est favori. Ouais, favori. Ouais.
C'est bien un entraîneur qui assume un peu comme ça.
Bon. Il y a un mot dans son intervention dont on avait déjà parlé au tout début. C'est physiquement. Ils sont très sûrs d'eux, enfin, physiquement. Et c'est vrai que, tant dans le premier match avec le fameux banc de touche que là, dans le match à Strasbourg.
Il y avait un dégage contre Strasbourg.
Julien Stéphan l'a dit après le match et j'ai trouvé ça très intéressant. Il a dit, quel que soit le résultat, on s'est fait un peu marcher dessus pendant tout le match. Et cet effet-là, cette prépa-là dont on m'avait parlé, moi, dans tout début juillet, y compris pour Ben Yedder et pour les cadres, qui n'avaient pas eu cette préparation-là l'an dernier, elle devrait payer à un moment donné. Donc, pour le dire comme ça publiquement, faut quand même le club reprendre
Monaco. Bon, logiquement, vu qu'il y avait ces matchs
le 19 juin.
C'est un gros résultat d'aller gagner à Strasbourg en Ligue 1 entre deux matchs de Ligue des Champions comme ça. Donc non, c'est.
Pour remercier la VAR.
C'est vrai. C'est
mauvais joueur.
C'est vrai.
Ah, alors, ce qui s'est passé quand même.
Ils prennent beaucoup de buts.
T'étais pas là. Ce week-end.
Si, mais j'ai suivi.
T'as suivi que les deux mecs dans le Twitter n'étaient pas d'accord.
Sur Twitter, mais peu importe. La bonne décision a été prise.
Alors, peut-être, mais enfin, ce qui est fou.
Pas de critique de l'arbitrage.
Non, mais moi, j'ai oublié mon côté strasbourgeois. Là, il y a quand même un truc à décrypter sur la prise de décision. C'est que l'arbitre central, donc, attend la décision du VAR Center sur le but de l'égalisation de Strasbourg. Et là, on sait, moi, j'ai eu cette information-là par les gens de l'arbitrage, là. Les deux gars dans le VAR Center ne sont pas d'accord. C'est-à-dire que Castro dit but. Et De La Jode, De La Jode dit non, pas but. Et l'arbitre central ne va pas voir l'image et en finit par pas but. Donc en fait, qui prend la décision? Qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais bien savoir.
Bon. Les deux VAR se sont mis d'accord et ont transmis la décision.
C'est-à-dire qu'il y en a un qui a dit, ou Castro qui a dit, bon,
Castro l'a dit, ah oui, t'as raison, j'avais pas vu, ça dépasse.
Bon,
ça dépasse, et voilà. Et
puis moi, je demande un peu de transparence sur cette affaire.
Je pense que Monaco était au-dessus. Donc,
Monaco était au-dessus. D'ailleurs, Cels a dit, on s'est fait rentrer dedans, Monaco a plus montré que nous sur le match. Donc,
ils prennent beaucoup de buts, néanmoins, et il y a quand même une grosse problématique de ce point de vue-là demain à Eindhoven pour eux.
Alors d'ailleurs, intéressant. Ce que tu dis, Malang Sarr donc va être prêté à Monaco par Chelsea, ça c'est acté. Et ce soir, on apprend que Monaco s'intéresse à un autre défenseur central,
l'Ivoirien Eric Bailly.
Exactement. Donc ça veut dire qu'en fait, ils veulent refaire une défense, pour être clair. Bon, il est vrai que Marie Pan, il semble pas être.
Je ne sais pas. Est-ce que Badiachil peut jouer plus haut?
Je pense plutôt que Badiachil peut être vendu.
Comme ils ont leur problématique Tchouaméni qui n'est pas résolue, je me posais cette question. Je ne sais pas, je ne sais pas assez bien Badiachil.
Non, je pense que le poste de Tchouaméni.
Bon, il y a Dizazi, il n'est pas un mauvais début
de saison. Non, Dizazi est parti pour être titulaire. C'est le deuxième, le complément de la charnière sur lequel il y a une grosse interrogation. Sur Maripane, on le sait. On sait ce qu'il vaut et ce qu'il peut faire de bien ou de moins bien. Et Badiachil pourrait partir. Ce qui explique aussi les recrutements en défense centrale. En revanche, je pense que le pari entre guillemets de Monaco, c'est en cas de qualif, Ligue des Champions, on recrute au poste de Tchouaméni.
Moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'ils ont un accord avec un joueur au milieu et qu'ils attendent de savoir, effectivement, et que le joueur peut-être attend de savoir si Monaco est pas bon, on verra bien.
Mais Mathieu est là.
Ça va bien se passer demain.
Supporter de l'ASM, salut Mathieu.
Salut les amis, salut tout le monde.
Ça va Mathieu?
Ça va, impeccable, une belle victoire hier. Ça fait plaisir, Gilbert. Je suis désolé.
Bah non, mais écoute, c'était une victoire méritée.
Merci beaucoup. Merci.
Bon, Crépin Diatta, il aurait pu faire ce but-là, il aurait pu le marquer demain.
Bah écoute, franchement, bon. Incroyable. Hein. Crépin Diatta, pour son retour, ça fait plaisir. T'as vu, toute l'équipe a été avec lui. J'ai l'impression qu'on a un groupe solidaire cette année, même si on sait que voilà, il nous manque 2-3 joueurs, surtout le remplaçant de Tchouaméni, c'est obligatoire. J'espère vraiment que Monaco va faire une fin de mercato avec une ou deux recrues importantes, quoi.
Soumaré a pas joué. Alors, je sais pas s'il était suspendu, blessé ou quoi avec Leicester ce week-end. Ça, c'était quand même, si jamais ils arrivent à, c'était une des pistes qui était évoquée à Monaco, hein. S'ils arrivent à faire ce joueur-là, c'est quand même très, très bon.
Ouais, après, je me demande si, est-ce qu'ils attendent pas justement de savoir s'ils sont qualifiés pour la Ligue des Champions pour pouvoir bouger un peu plus dans le mercato. Ne serait-ce que pour les joueurs qui arrivent.
Enfin, le problème, c'est que si c'est ça, il te restera deux ou trois jours pour le faire. Donc,
ouais, c'est compliqué. Hein.
Bah oui.
Ouais. Et comme on se tape les barrages quasiment tous les ans, bah, tous les ans, c'est un peu la même chanson, quoi. Donc, c'est.
T'es confiant pour demain?
Bah, confiant. Il y a une semaine, je t'aurais dit non, mais après le match du PSV contre le PSV, puis le match contre Strasbourg, je me dis quand même que Monaco joue au football. On voit quand même qu'il y a des automatismes qui se sont créés là justement durant la préparation. Brelem Bolo, c'est un joueur que j'adore, c'est un.
Ouais, Mbolo, franchement, c'est pas mal.
T'as vu, il bloque les ballons, il se sert.
Moi, demain, j'attends surtout un truc, c'est que Ben Yedder et Voland fassent un vrai match, parce qu'à l'aller, ils ont été décevants.
Je suis pas sûr que tu verras Voland, ouais. Mais d'ailleurs.
Moi, oui. J'aimerais bien Ben Yedder.
Ça va être Ben. Enfin, je pense. Et attention, il y a des choses qui vont changer. Là. Effectivement, t'as raison, qui ont changé depuis une semaine. Il y a ce qu'on a dit sur l'entrée des quatre joueurs, donc Crépin Diatta d'ailleurs, les quatre joueurs offensifs du match aller. Il y a le match Diop. À Strasbourg, Diop, Crépin Diatta, Mbolo qui
Diop,
s'affirme.
Je suis curieux de voir s'il va le mettre demain, vu le bon match qu'il fait à Strasbourg.
Pas sûr non plus. En fait, il a préparé quand même, on l'a vu, t'as vu ces matchs entre le match aller.
Effectif de folie.
Voilà, et ce que je veux dire, c'est le banc qu'ils ont. Donc, demain.
Golovin, il va jouer, il était suspendu.
Golovin était suspendu et tu récupères sans doute Caio Henrique qui était juste, entre guillemets, Covid. Donc, je crois que le délai est passé. Donc, il y a aussi là-dessus de bonnes nouvelles.
Ouais, c'est pour ça que je pense que vraiment, le groupe est quasiment complet. Il manque juste un vrai bon milieu de terrain. Moi, j'aurais adoré un Seko Fofana, par exemple. Vous en parliez l'autre soir à l'after de comment ce joueur n'a pas trouvé un autre club que Lens. Moi, franchement, les dirigeants de l'AS Monaco, 30 millions, il faut les mettre, surtout quand on a gagné 100 sur Tchouaméni. Mais jette-toi sur un Seko Fofana qui, lui... ce joueur-là, c'est vraiment le profil idéal pour nous. Enfin, c'est un chien de la casse, il est à 95 minutes. Enfin, moi, j'adore ce joueur, quoi.
C'est vrai. Bah, je crois que tout le monde l'adore. Il y a à peu près unanimité. Bon, la voiture, on verra demain. Hein. Merci.
Ouais, merci à vous, les amis. Dagemoun et go.
Et bonne soirée. Demain soir, tout le monde sera pour Monaco, évidemment, pour passer ce tour. Avant de parler des autres clubs de Ligue 1 dans quelques instants, juste une histoire de Ligue 2. Vous avez suivi l'affaire Niortaise ce week-end
sur Sébastien Dezam.
Ouais.
Alors, c'est assez dingue. Donc, je rappelle vite fait ce qui s'est passé. Niort joue samedi à 19h. Et dans l'après-midi, la fédération de RDC, Congo-Kinshasa, fait un communiqué en disant on est ravis de vous annoncer qu'on a un nouveau sélectionneur de sabre. Alors, évidemment, à Niort, tout le monde dit qu'est-ce que ce délire et tout. Il se trouve qu'après 20 minutes, Niort est mené 3-0 par Bastia. Donc, y a-t-il un lien de cause à effet? Bon, ils ont perdu 4-0. De sabre, assez énigmatique après le match. Hein, et au final, il y va bien. C'est confirmé.
4-1, ils ont perdu.
Ils ont perdu 4-1. Et donc, de sabre devient bien le nouveau sélectionneur de la République démocratique du Congo qui vraisemblablement en termes de com' n'en avait à peu près rien à foutre de Niort.
Il retourne dans l'Afrique où il a fait l'essentiel de son parcours.
Exactement.
Et en fait, à Niort, ça a beaucoup bougé parce que ça a évidemment irrité les dirigeants, mais qui ont découvert, apparemment ont redécouvert qu'il y avait une clause dans son contrat qui stipulait qu'il pouvait avoir une clause de sortie en cas d'un appel d'une fédération africaine même, précisément. Donc,
voilà, il a préparé son coup.
Bah ouais, ma foi, si tu dis dans l'entretien d'embauche que je bougerai pas,
c'est
mais
un sacré potentiel, hein. C'est pareil, c'est une équipe qui n'obtient jamais de résultat, mais
c'est un sacré potentiel. Mais alors, je vais te dire, en niveau commun. Organisation, je pense que c'est une des pires fédés africaines. C'est un truc de dingue. Voilà. J'y suis allé il y a pas longtemps. Voir un match justement avec un ami décisif, la RDC Maroc, qui était un des matchs de barrage de la Coupe du Monde. En une journée, tu avais un an de polémique entre l'organisation, le stade, bref. Et les pauvres, c'est vrai qu'il y a un gros potentiel, mais il y a un gros souci organisationnel.
Un pays qui sort beaucoup de joueurs. Ouais.
Donc de sabre, il va avoir du boulot. Hein. Voilà. Il y a Kakuta, par exemple, qui est un des bons des piliers de la sélection.
Mais de sabre, c'est pas un troisième couteau. Hein. Il passera
pas mal. Là, tu montes en puissance.
Ça se termine.
Quelle épée, ce Florent.
Exactement. Allez, dans quelques instants, on parle de ces équipes qui ont gagné ce week-end et dont on n'a pas encore évoqué le nom. Montpellier, Lyon, Lens, qui vous a plu? Et on vous attend au 32-16. Et puis, Florent et Stéphane pourront donner leur avis. C'est le dernier quart d'heure de l'after qui arrive tout de suite.
RMC. L'after foot. Gilbert Bribois.
23h47, Stéphane Guy est là, Florent Gautreau est là. Je vais vous faire une petite liste, messieurs. Et vous allez me dire qui vous a plu ce week-end. Volontairement, je prends les équipes qui ont gagné. Hein. Lens, Lyon, Montpellier, Lorient ou Lille. Les autres, on en a déjà parlé, Paris et Marseille, Monaco.
Ceux qui m'ont le plus plu, c'est Lens. Si tu fais un ordre de grandeur, parce que entre les buts qu'ils ont marqués, bon, il y a toujours en plus cette atmosphère, mais et les buts qu'ils auraient pu marquer, je trouve que c'est l'équipe et l'équipe que j'attendais un peu de voir. J'ai pas été déçu parce que pour les autres, en fonction de l'adversaire, Montpellier par exemple, c'est beaucoup Savanier, mais Troyes aurait pu tirer le nul. Lyon, bah ils ont moins bien fini qu'ils n'avaient commencé contre une, c'est-à-dire entre guillemets que Ajaccio. Et Lille, on en a parlé tout à l'heure. C'est vrai que c'était aussi contre Auxerre. Donc pour moi, c'est peut-être Lens qui m'a fait la meilleure impression.
T'es d'accord?
Non, j'ai pas grand-chose de plus à dire que Florent. Moi, il y a une équipe que je guettais. Tu l'as pas citée, malheureusement, Gilbert, mais c'est normal. Elle a fait 0-0, c'est Angers. Parce qu'il y a eu une révolution incroyable à Angers cet été avec un nombre de départs considérable et des joueurs importants, tous les cadres derrière, Ali Chaud devant, etc. Donc c'était un peu le match de tous les dangers et sur ce que j'ai vu, lu du match, c'était une pression assez convaincante d'Angers, même s'il n'y a eu que 0-0 qui n'ont pas été
carrément
efficaces.
Mais Lafont a même sauvé les meubles. Donc
oui, après, voilà, je ça
plus
m'intéresse.
La vente avortée, voilà, plus une nouvelle tribune.
Stade super hein, d'ailleurs avec la nouvelle tribune. C'est on est sur
attention,
un stade,
ça c'est pas anodin. Hein.
Non, on est sur un stade à l'anglaise vraiment sympa maintenant. Sachant que j'ai connu à Angers la butte derrière, c'était une butte en herbe.
Ah oui.
Derrière, ouais,
là où il y a la tribune aujourd'hui.
Je suis jamais allé à Angers, pas au stade.
Bah, c'est le stade. Tu n'es jamais allé.
Et non. C'est ex Jean Bouin et Raymond Coppa maintenant. C'est ça, hein, c'est toujours Raymond Coppa.
Non, mais c'est ces histoires de stade en travaux. Tu sais que c'est comment dirais-je. Ça arrive à chaque fois quand ton stade est en travaux, les résultats sportifs sont toujours.
Bien sûr. Et Stéphane a raison dans la petite analyse qu'on a faite sur les clubs qui pourraient risquer de descendre là, jeudi soir. Bon, je suis inquiet pour Auxerre, pour Clermont aussi d'ailleurs. Bon, mais j'étais inquiet pour Angers. Et j'avoue que j'ai assez surpris.
Ils ont eu une deuxième partie saison très très compliquée.
Oui, deuxième partie saison. Et ce que tu as dit sur l'intersaison. J'avoue que j'étais assez surpris de le. Finalement, ils ont dominé Nantes, pour être très clair. Alors, on a pu, tout le monde a un peu acquis pour Nantes, tu as dit. Mais ils m'ont surpris, donc c'est plutôt pas mal. Ouais.
Je pensais que au moins l'un de vous deux allait parler de l'OL. Bah, vous avez déjà oublié parce que c'était vendredi.
Flo nous a annoncé une grande saison de l'OL.
Moi, j'annonce une grande saison de l'OL. Non, j'avoue que
c'est pas anodin pour Lyon de gagner son premier match à domicile. Hein. Ça fait plusieurs années qu'ils se loupent.
Bah, oui.
Ils sacrifient quasiment leur chance dès le mois d'août. Donc, effectivement, c'est important pour eux d'avoir gagné
ce match. Je t'aurais dit, au bout de 25-30 minutes, oui, j'étais sur mon idée. Je me suis dit, oui, effectivement, ils sont là. Après, j'avoue que j'étais un petit peu refroidi quand même par la deuxième période. C'est pour ça que je suis moins. Non, mais je me demandais de faire un classement. Je te mets Lens un peu au-dessus. Mais moi, je crois à Lyon cette saison, effectivement. Je dis juste qu'on a vu aussi dans la deuxième période, on a vu un peu les qualités et les défauts. On a vu un peu les qualités et les défauts de l'OL de l'an dernier. Mais avec des choses que moi, sur lesquelles je suis très optimiste, c'est par exemple Lacazette. Et je parle pas de Lacazette buteur. Je parle de toute l'influence qu'il a.
Lacazette.
Le leadership et pas que. Le leadership technique. Voilà ce qu'il a fait. On l'avait dit avant le match. Il met en valeur les attaquants extérieurs. Ça, il a une façon de jouer pour les autres. Évidemment, s'il faut être là pour conclure, il est super adroit. Mais
sur le but.
Ce qu'il fait sur le but, il le fait souvent. Je trouve que là, t'as une équipe et le penant. Donc, ça va te faire plaisir parce qu'il est cané, qui a fait un match énorme.
Oui.
C'est le remplaçant.
On parlait des gamins, 19 ans.
Il a fait un très bon match pour un début en Ligue 1 et.
Il est tout rouge, le pauvre côté.
Et il n'est que le remplaçant entre guillemets de Cacré. Donc, ça veut dire que tu as du lourd.
Oui, bon, n'oubliez pas Tolisso qui est rentré en fin de match.
Bon, après, il y a eu un peu de MMA aussi, dans le match. Bon, grâce à Anthony Lopez. Donc, ça a mis un peu de piquant de piment. Mais tu as vu la petite différence entre le Lopez d'avant et le Lopez. Tout le monde dit qu'il n'échange pas, il ne grandit pas. Faux. La réaction de Lopez.
Oui.
Expulsion, excuse, changement. Je veux dire que c'est le début de la rédemption.
Mais surtout, parce que à chaque fois, bon, ça ressort, mais on se souvient pas qu'en fait, de toute la saison dernière, il n'y a pas eu un souci dans ses sorties. C'est la saison d'avant.
Tu sais combien il a pris de cartons rouges en tout dans sa carrière en Ligue 1?
Deux, je crois.
Deux, je crois.
Ouais.
Donc, si tu veux, je considère que c'est une erreur. Je pense que c'est un coach des gardiens. Il a le droit de lui dire, tu peux pas sortir comme ça. Non, mais 10 fois
sur,
dans ta
sur cette action, tu mets 2-0, reste sur ta ligne.
Mais même en général, je pense que c'est, je pense que n'importe quel entraîneur de gardien peut lui dire, si ça arrive une fois, ok,
mais c'est son
fois,
jeu, c'est son jeu.
Oui, mais je pense quand même qu'un entraîneur de gardien peut lui dire, tu ne peux pas, pour la bonne et simple raison, que tu ne peux pas pénaliser ton équipe de cette manière-là. Parce que ça change.
Si c'était deux fois par an, oui, mais si ça arrive pas souvent, et le jeu de Lopez, c'est ce jeu-là, et c'est un joueur explosif qui va au contact. Bon, voilà.
En tout cas, j'ai trouvé que dans l'attitude qu'il a eue, l'explication derrière, et aussi avant, parce qu'il en a parlé peu de temps avant, on lui a parlé de son côté impulsif, et il avait expliqué qu'il essayait aussi d'y penser, qu'il écoutait les remarques, et j'ai trouvé que dans l'attitude qu'il a eue après, et le rouge et après le match, c'était plutôt bien.
Dis-moi, je t'aurais pu fanfaronner, tu aurais pu nous dire, ça fait un an que je vous dis que Boateng...
Oh, je dis plus, finir. Je dis plus, ça, quand même. Je crois que les faits m'ont donné raison. Contre la France entière du football, hein. Les consultants. Ah, ici, RMC, l'after, non, les consultants.
Tu t'es chauffé avec Daniel, qui voyait en
Boateng. Daniel, les autres. On m'a dit tous les grands consultants de Prime Video, j'ai tout entendu.
Non, mais là, t'exagères.
Les noms connus, voilà, mais
qui
connaissent.
Il y en a plein qui ont dit Boateng, c'est à Paris, on verra si ça marche.
Ah non, moi j'ai entendu tout sur le thème, en plus un peu condescendant du style. Ah d'accord, ok. Il y en a qui donc mettent en doute le fait que c'était le gros transfert de l'intersaison. Genre, tu vois, je me suis trouvé relégué dans la quatrième division des consultants foot. Mais non, ben
voilà, c'est remonté au
final. Il m'arrive d'avoir tort. Mais
chapeau 4 au chapeau 2.
Ouais. Non, mais bon, sur Boateng, je vais te dire un truc. Je ne pensais pas que ce serait aussi catastrophique, et surtout, je ne savais pas. Je sais pas si c'était le cas beaucoup au Bayern, mais je crois pas. Enfin, qu'il avait aussi une attitude particulière dans le vestiaire, parce qu'il n'y a pas eu que des choses sur le terrain. Là, on parle de foot, mais il y a aussi eu des choses dans le vestiaire.
Il faut qu'il règle le problème.
Pour moi, c'est une rupture de contrat. Alors là, je fais un pronostic. Je vois une rupture.
Tu dis rupture de contrat avant la fin de la saison.
Oui, rapidement. Je vois pas trop comment ça peut se passer.
Oui, parce qu'il faut se le traîner sur le banc de touche pendant toute la saison. C'est sûr.
Et je répète que je suis un fan du Bayern, je vous l'ai dit tout à l'heure en antenne, et de Boateng à son prime. Mais voilà, c'est un immense joueur, mais il n'est plus l'immense joueur qu'il a été.
Il nous reste 3 minutes, là. J'aimerais quand même qu'on aille un peu plus. On a parlé de Fonseca Rapidos tout à l'heure et de Lille. Évidemment, premier match, blablabla, adversaire, blabla. Bon, enfin, vous pensez qu'il y a quelque chose à Lille, là, qui peut se mettre en place. Jonathan David, il y a aussi le contexte Coupe du Monde, il va à la Coupe du Monde lui aussi.
David, il y a eu un recrutement intéressant, il y a des jeunes joueurs, il y a eu une revivification d'un effectif qui était resté sur la continuité du titre et qui maintenant repart sur de nouvelles bases. Donc on verra là encore avec le temps, mais il s'est clairement passé un truc à Lille cet été, quoi. Il y a eu un coup de boost.
Exactement. Moi, j'attends avec impatience de voir ce qui va se passer, mais ça peut être une surprise positive.
Moi, je trouve ça excitant. Sur le papier, l'association Bayo David, Borba est toujours là. C'est excitant.
André toujours là. Je m'étonne que Rennes n'ait pas Jonas Martin. On n'en voulait plus.
Non, parce que ils estimaient que c'était un peu
pourtant,
juste.
Pourtant, quand il est rentré, apparemment il est rentré, c'est là que tu avais le meilleur Rennes la saison dernière, si je me trompe pas.
C'est pas aussi simple que ça. Non, c'est-à-dire qu'il manquait à Rennes au milieu le côté le mec un peu de vicieux capable
donc
de
mettre. Donc Martin.
Ouais, donc Martin, parce qu'à Rennes il y avait pas ce profil-là.
Et là maintenant, donc, là ils en ont deux. Allez, ils ont André et Martin, parce que les deux, tu peux y aller.
Ils ont un jeune qui justement a explosé pendant l'été là.
Il a apporté ça Martin l'an dernier, mais très vite Genesio, ils ont considéré que c'était limité. Qu'il était limité par rapport au jeu que Rennes voulait proposer, donc par rapport à leur effectif, donc ils l'ont dit très tôt, hein, d'ailleurs il a été super, évidemment super pro aussi, il faut le regarder, remarquer, parce que il a su très tôt que ça allait s'arrêter, et donc voilà. Mais ouais, effectivement, du côté de Rennes, un œil, Walid en avait parlé, et moi je n'ai vu que lui alors qu'il n'a joué que 20 minutes, c'est Désiré Doué,
qui porte bien son nom, donc
qui porte bien son nom, qui a le numéro 33 comme tous ces jeunes, qui avaient le numéro 33 hier, ces jeunes dont le
maillot
n'est pas floqué, et il a fait une entrée remarquable.
Tiens, j'ai une petite histoire à vous raconter pour finir là, que le PSG va devoir suivre de près. Vous vous souvenez, il y a un an à peu près, on avait eu un match Brésil-Argentine arrêté. Rappelez-vous, la police brésilienne qui se pointe avec l'histoire de Covid, qui va choper des joueurs argentins, vous pouvez pas être là. Et ben là, FIFA, alors là, FIFA, des fois, ils font des trucs, c'est les dingos.
Lunaire.
Donc là, les qualifs, c'est donc ça comptait pour les qualifs Coupe du Monde. Les qualifs sont finis, les deux équipes sont qualifiées, et la FIFA dit non, faut rejouer le match. Donc en fait, ça n'a aucun sens. Et lui dit non, il faut rejouer, c'est la règle. Donc les deux fédés disent, attendez, quand il n'y a pas de date. Et donc là, ils sont en train de réfléchir à rajouter une date en octobre pour jouer ce match qui ne sert à rien, dont tout le monde se fout et que personne ne veut jouer.
Surtout, tu t'imagines imagine qu'un des grands joueurs.
Infantino, réveille-toi là, plutôt que dormir au Qatar.
Un des grands joueurs de ce match se blesse à un mois de la Coupe du Monde au Qatar.
Non, mais je pense qu'ils ne vont pas jouer.
Ah oui, j'imagine.
T'es l'Argentine, t'envoies, je sais pas, t'envoies tes U16, j'en sais rien. C'est ridicule.
Ce qui serait drôle, c'est de faire les anciens, au lieu de mettre les jeunes.
j'ai un concept. Ça, c'est une idée. Ouais.
Parce que les jeunes, pourquoi tu peux les blesser aussi, alors que les anciens, c'est pas grave.
Grand Mario contre.
Non, mieux. J'ai une autre idée. Ceux qui n'ont pas eu la chance, mais de peu, de porter le maillot argentin. Par exemple, Omar da Fonseca.
Ah ben oui, là, vu Omar, la dernière fois que je l'ai vu, je sais pas s'il est capable de jouer là quand même.
Ah Omar t'es tiki-taka, il te fait une petite passe rapide quoi.
Très bien, pourquoi pas. 23h58, c'est fini, l'after est là demain à 20h avec Monaco, programme Monaco PSV bien sûr, en intégralité demain soir dans l'after. Merci Stéphane, merci Florent.
Salut. Bonsoir à tous.
Et à demain, bye bye.
RMC, l'after foot.
RMC, football. Samedi 4 mai à 15h au stade de la Mosson à Montpellier, c'est la finale de la Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Fleury 91 pour un match au sommet. Qui décrochera le titre? Réservez vos places sur billetterie.fff.fr. PSG Fleury. Finale de la Coupe de France féminine le 4 mai à Montpellier avec RMC.